Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 juillet 2014, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alverson, bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, l'épave de l'avion d'Air Algérie disparu jeudi a été retrouvée. Et qu'en est-il des passagers ?
Malheureusement, notre équipe n'a vu personne sur les lieux. L'équipe n'a pas vu de survivants sur les lieux.
Vous entendrez le général burkinabé Gilbert Diendéré. Le gouvernement du Mali et 6 groupes armés ont signé hier à Alger un document sur la cessation des hostilités dans le cadre des négociations de paix.
Seulement, il y a une fausse note, ce sont les différents mouvements qui ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes de mouvements. Il y a les belligérants qui sont en guerre contre le Mali. Et il y a ce qu'on appelle les pro-maliens ou les loyalistes ou les miliciens.
À suivre, Mohamed Ag Aharib du Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad en RDC, le gouvernement provincial du Nord Kivu a suspendu toutes les activités de coopératives minières dans le carré de Bissier, dans les territoires de Walikale.
Nous savons au niveau international qu'il n'y a pas d'activité sur le site de Bissier depuis pratiquement 2 ans. Et lorsque nous, au gouvernement, nous disons que nous suspendons, donc il y avait des activités sur le site de Bissier. Et ça ne doit être que des activités illégales. Et donc c'est une façon pour le gouvernement de marquer dans son propre camp.
À suivre le reportage de Primo Pascal Roudaïgua, conflit israélo-palestinien. Un obus est tombé hier sur une école des Nations Unies, faisant 15 morts. Et vous aurez en fin d'émission les sports et la musique. Pour l'instant, le journal.
L'épave de l'avion d'Air Algérie, disparu jeudi avec au moins 116 personnes à bord après son décollage de Ouagadougou, a été retrouvée dans le nord du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé le chef d'état-major particulier de la présidence burkinabé. L'épave a été localisée à 50 km au nord de la frontière du Burkina Faso, dans la zone malienne de Gossi, a déclaré à la presse le général Gilbert Diendéré, qui a dépêché une équipe sur place. On écoute Gilbert Diendéré.
Cette mission a trouvé sur place les débris de l'avion. Cette équipe a trouvé sur place, malheureusement, des restes de corps humains. Nous n'avons pas pu évaluer exactement ce qu'il en est, compte tenu du fait que la nuit commençait à tomber. Et cette équipe, en tout cas, nous a confirmé qu'elle a vu l'avion, elle a vu l'épave de l'avion complètement calcinée et complètement éparpillée sur le terrain. Malheureusement, notre équipe n'a vu personne sur les lieux. L'équipe n'a pas vu de survivants sur les lieux.
De son côté, la présidence française affirme qu'un détachement militaire français a été envoyé sur place pour sécuriser le site et recueillir de premiers éléments d'information. Le gouvernement burkinabé a décrété 48 heures de deuil à compter de ce vendredi à 6 heures, selon son porte-parole Alain-Édouard Traoré.
Le gouvernement du Mali et 6 groupes armés ont signé jeudi à Alger un document sur la cessation des hostilités dans le cadre des négociations de paix. Les deux parties ont aussi signé une feuille de route ayant pour objet la mise en place d'un cadre pour des négociations de paix pour permettre l'émergence d'une solution globale et négociée. Mohamed Ag Aharib du Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad participe aux discussions dans la capitale algérienne.
En fait, c'est pour préparer les négociations, c'est-à-dire d'abord les différents points de négociation, le calendrier, qui sont les médiateurs. Seulement, il y a une fausse note, ce sont les différents mouvements qui ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes de mouvements. Il y a les belligérants qui sont en guerre contre le Mali. Et il y a ce qu'on appelle les pro-maliens ou les loyalistes ou les miliciens. Ce sont ces 2 groupes-là qui ne parviennent pas à se mettre autour d'une même table. Et la communauté internationale qui est chargée du dossier est obligée de faire 2 documents, de négocier à 2 fois, c'est-à-dire au niveau de chaque tendance. Mais bon, jusqu'à présent, on tente de parvenir quand même à une coordination de tous les mouvements, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas, malheureusement.
Mohamed Ag Aharib, joint par Nicolas Pinot.
Premier cas présumé d'Ebola au Nigeria, un ressortissant du Liberia a été hospitalisé à Lagos où il a été soumis à des tests. Le patient âgé de 40 ans est arrivé de Monrovia en passant par le Togo.
Des centaines de Tunisiens se sont rassemblés hier soir pour commémorer l'assassinat il y a un an de l'opposant Mohamed Brahimi. Cet assassinat avait déclenché une crise politique de plusieurs mois dans le pays. Une énorme affiche portant les visages de Mohamed Brahimi et d'un autre opposant assassiné en 2013, Chokri Belaïd, a été déployée sur un immeuble surplombant la place de Bardo. L'assassinat attribué à des djihadistes de ce député de gauche le 25 juillet 2013, journée chômée marquant la proclamation de la République en Tunisie, avait profondément déstabilisé le pays et paralysé ses institutions.
5 personnes, dont 2 femmes, ont été inculpées aux États-Unis pour avoir fait passer des fonds à la milice islamiste Al-Shabaab en Somalie. Camille Grosdidier.
Les 2 Américaines, Mouna Osman Jama, 34 ans, et Hinda Osman Diran, 44 ans, ont été arrêtées mercredi. 20 chefs d'accusation sont retenus contre chacune d'elles. Jama a déjà comparu devant un tribunal fédéral à Alexandrie et Diran à Seattle, dans l'État de Washington. Selon l'acte d'accusation, les 2 femmes avaient envoyé à partir de février 2011 des paiements mensuels au Shabab. Il s'agissait de versements d'environ $100 ou plus, le montant le plus élevé ayant atteint $1,500. 3 étrangers ont également été inculpés. Faria Hassan a été arrêté mercredi aux Pays-Bas. Fardosa Jama Mohamed et Hassan Abdullahi Barira sont en fuite, probablement vers la Somalie et le Kenya. En 2008, les États-Unis ont placé les Shabab sur la liste des organisations terroristes. En 2012, les dirigeants des Shabab ont annoncé qu'ils faisaient allégeance à Al-Qaïda.
La Maison-Blanche s'est dit ravie que la Soudanaise condamnée à mort pour avoir refusé de renoncer à sa religion est désormais libre et en mesure de venir aux États-Unis. Myriam Yahya Ibrahim est arrivée hier à Rome avec son mari, un citoyen américain, et leurs 2 enfants, dont la fillette née pendant qu'Ibrahim était en prison. Elle a rencontré le pape François au Vatican, qui l'a remercié pour sa foi et son courage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les responsables des Nations Unies se disent outrés qu'un obus, apparemment israélien, soit tombé dans une école de l'ONU à Gaza, qui était transformée en abri. Des détails avec Henri Francisque.
15 personnes ont été tuées, y compris des enfants et des membres du personnel des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit consterné. Les fonctionnaires onusiens ne sont pas immédiatement en mesure de vérifier s'il s'agissait d'un obus israélien. Mais ils disent qu'Israël avait reçu les coordonnées précises de l'emplacement de l'immeuble. L'armée israélienne a admis que ses forces se battaient contre des militants du Hamas près de l'école. Mais les Israéliens n'ont pas reconnu si c'était un de leurs obus qui a frappé le bâtiment. Ils ont à nouveau accusé les militants du Hamas d'utiliser les femmes et les enfants comme boucliers humains. Chris Gunness, porte-parole de l'Agence onusienne d'aide aux Palestiniens, affirme que les civils ont assez souffert dans ce qu'il appelle un conflit épouvantable. Pour sa part, un porte-parole du secrétaire d'État américain John Kerry dit que cette attaque de l'école souligne la nécessité de mettre fin à la violence.
Les États-Unis accusent la Russie d'avoir tiré depuis son territoire sur des positions de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Un porte-parole du Pentagone a déclaré hier jeudi que cette agression russe est une claire escalade des combats entre les séparatistes et les militaires pro-russes de l'Ukraine qui ont proclamé leur indépendance dans plusieurs régions de l'est. Le président Barack Obama a pour sa part accusé la Russie de fournir des armes lourdes et de la formation aux rebelles qui sont soupçonnés d'avoir abattu un avion de Malaysia Airlines avec un missile la semaine dernière, faisant 298 morts. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a annoncé hier sa démission.
Le Kurde Fouad Massoum a été élu hier président de l'Irak au cours d'une séance du Parlement qui avait été plusieurs fois reportée en raison des tensions politiques. Jean-Roger Bion.
Ce septuagénaire succède à Jalal Talabani, âgé de 80 ans, rentré la semaine dernière après une longue hospitalisation en Allemagne. La première tâche de Fouad Massoum sera de choisir un premier ministre. Selon une règle non écrite, le poste protocolaire de président de la République est occupé par un kurde, celui de président du parlement par un sunnite et le premier ministre un chiite. Ce premier ministre devrait venir du bloc de l'actuel chef du gouvernement Nouri al-Maliki, arrivé en tête lors des législatives d'avril. M. Maliki, au pouvoir depuis 2006, veut un troisième mandat. Il est très critiqué pour son monopole du pouvoir. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, était hier à Bagdad pour appeler à un véritable gouvernement d'union qui devra tenter de sortir le pays d'une grave crise face à l'offensive des djihadistes de l'État islamique.
Et puis enfin, la Turquie inaugure ce vendredi son premier train à grande vitesse entre ses deux principales villes, Ankara, la capitale, et Istanbul. C'est un projet mis en œuvre par le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan dans le cadre des efforts pour moderniser le pays. L'ouverture de la ligne intervient moins d'un mois avant la présidentielle du 10 août à laquelle M. Erdogan est candidat et pour laquelle il a fait campagne en mettant en avant ses efforts pour améliorer les transports en Turquie. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Il est 6h10 en temps universel. On commence la partie magazine par les accords de Brazzaville. 48 heures donc après la fin de la conférence de Brazzaville, beaucoup restent perplexes sur le document final qui a été adopté dans la capitale congolaise. Certes, l'arrêt des hostilités est inscrit sur le papier, mais le désarmement et le dialogue politique restent en suspens. Nicolas Pinot a joint le chercheur français Roland Marshall.
La conférence de Brazzaville est empreinte d'une très grande bonne volonté de la communauté internationale et de la région. Mais je pense qu'elle a été bâtie sur sans doute des prémices qui sont discutables. L'une d'entre elles étant qu'on puisse aller très vite pour la négociation d'un cessez-le-feu, dans la mesure où tant les anti-Balaka que la Seleka elle-même constituent aujourd'hui des groupes qui sont profondément clivés au niveau interne. Et donc toute décision qui peut être prise doit d'abord être discutée à différents niveaux à l'intérieur de chacun de ces mouvements. Bon, ça n'a pas été fait. Et à partir de ce moment-là, on peut absolument douter de la mise en œuvre pratique d'un tel cessez-le-feu.
Notamment suite à la revendication principale de la Seleka qui a été complètement oubliée de cet accord, à savoir la partition du pays.
Cet argument est très populaire justement dans la base de la Seleka. Il est jugé complètement irréaliste par les chefs d'État de la région et la communauté internationale et évidemment le reste des interlocuteurs centrafricains. Les dirigeants de la Seleka sont, quant à eux, divisés justement sur ce mot d'ordre. Donc, et je dirais que paradoxalement, celui qui a tenu le discours, Moussa Dahman, est quelqu'un dont on pense qu'il n'est pas du tout lui-même un partisan de cette solution, dans la mesure où il est un enfant de Bangui, a vécu à Bangui et pèserait extrêmement, d'un poids totalement mineur, s'il devait exercer un quelconque pouvoir politique dans le nord-est du pays.
Cet accord de Brazzaville, très faible et très limité, finalement, n'est-il pas à l'image de la présidence de Catherine Samba-Panza, très critiquée depuis qu'elle a pris la tête de la transition?
Elle a été critiquée parce que la communauté internationale et surtout la population s'est rendue compte que c'était une oratrice hors pair, qu'elle parlait extrêmement bien en français. Sur le fond, elle se révélait, elle et son gouvernement, incapables de faire avancer les choses. J'entends de plus en plus de gens dire que, d'une certaine façon, l'échec auquel on a assisté à Brazzaville est un échec qui a peut-être été préparé et pas simplement par certains dirigeants de la Seleka. Parce que le statu quo, finalement, est une chose qui éviterait à certains ministres de perdre leur pouvoir ou de devoir partager le pouvoir dans des conditions qui ne sont pas celles de l'exercice commun aujourd'hui.
C'était le chercheur français Roland Marshall, joint à Paris.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En RDC, le gouvernement provincial du Nord Kivu a suspendu toutes les activités des coopératives minières dans le carré de Bissié, dans le territoire de Walikale. Il exige aussi l'intensification de la traque de la milice Nduma Defense of Congo, NDC, de Tabou Taberi Sheka jusqu'à son dernier retranchement et l'évacuation sans délai de tous les creuseurs artisanaux du site de Bissié. Les installations de la société minière sud-africaine MPC qui fait la protection sur ce site auraient été incendiées et 4 militaires congolais seraient pris en otage par les assaillants. Bissié est un carré minier qui a fait un boom en 2006 avec une moyenne de production de 30 tonnes de cassitérite brute par jour. Un conflit persiste depuis des années entre les coopératives minières et la société MPC pour l'exploitation de ces sites. Depuis la loi d'ordre franc ici aux États-Unis interdisant la commercialisation des minerais de sang en provenance de l'Est de la RDC, Il était supposé que ce carré minier soit fermé en attendant sa certification par les services spécialisés. Le point avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudaigua.
Cette décision a été prise au cours du Conseil des ministres du Nord Kivu après l'attaque du campement de la compagnie minière MPC par la milice Nduma Defense of Congo qui avait pillé, incendié et saboté la dite compagnie minière. Le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Marie Shematsi Baini.
Le Conseil a arrêté les mesures suivantes. Les services spécialisés doivent faire un travail de fourmi pour retrouver dans un temps record et mettre à la disposition de la justice les auteurs de ces actes ignobles. La suspension des activités des coopératives minières dans le site de Bissier. L'évacuation sans délai de tous les trésors du site de Bissier jusqu'à nouvel ordre.
Réagissant à cette décision, Rubens Mikindo, notable de Walikale, pense que cette mesure est sans objet car c'est depuis longtemps que le désordre règne dans le carré minier de Bissier.
Je crois que ce n'est pas la première fois que ce site minier de Bissier est fermé. Je pense aussi que c'est de l'irresponsabilité du gouvernement congolais à ne pas y mettre beaucoup d'intelligence, beaucoup de moyens pour finalement valoriser les territoires de Walikale.
Pour sa part, Prince Kiang Kiamwami du bureau d'études, d'observation et de coordination de Walikale, Bedewa en sigle, c'est une preuve que les minerais étaient toujours exploités dans les sites de Bissier en dépit de la suspension de toutes les activités sur ces sites par le gouvernement national.
Nous savons au niveau international qu'il n'y a pas d'activité sur les sites de Bissier depuis pratiquement 2 ans. Et lorsque nous, au gouvernement, nous disons que nous suspendons, donc il y avait des activités sur les sites de Bissier. Et ça ne doit être que des activités illégales. Et donc c'est une façon pour le gouvernement de marquer dans son propre camp.
Il reste à voir par quelle magie le gouvernement provincial va imposer cet ordre sur ces sites miniers entourés par la milice Nduma Defense of Congo. Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, la Banque mondiale affirme que les attaques de Boko Haram rendent plus difficiles les projets agricoles pour améliorer la vie des personnes touchées par la famine dans le nord du Cameroun, le sud du Tchad et au Nigeria. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale, était en visite à Yaoundé, Ishakaba.
Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale, dit que les projets dans l'agriculture, la santé et l'eau dans le sud du Cameroun, nord du Nigeria et dans la partie sud du Tchad ont souffert à cause de l'activité de Boko Haram. 108 millions de dollars pour réhabiliter les digues, barrages et systèmes d'irrigation sont en stagnation dans une zone caractérisée par des niveaux élevés de pauvreté. Après une rencontre avec le président Paul Biya, M. Diop a déclaré que les attaques de Boko Haram ont ralenti l'exécution de certains projets et ont semé la panique dans le nord du Cameroun, le sud du Tchad et dans le nord-est du Nigeria. Nous avons discuté avec Son Excellence le Président d'augmenter les conditions de la paix et de la stabilité dans la sous-région et aussi essayer de voir comment renforcer les programmes de protection sociale pour atténuer la pauvreté. Vous connaissez la situation de sécurité en cours dans cette partie du sous-continent. Donc pour nous, renforcer le développement économique de la partie nord du Cameroun est quelque chose d'essentiel. Midji Yawa Bakari, gouverneur de la région à l'extrême nord du Cameroun, a également dit que les subventions de la Banque mondiale aident à rétablir la production rizicole, fournir des vivres et des revenus à plus de 3 millions de personnes défavorisées, d'autant que la plupart des bénéficiaires et des travailleurs humanitaires ont commencé à quitter par peur de Boko Haram, qui lance régulièrement des attaques contre des villages.
Il est grand temps que les choses reviennent à la normale et ceci n'est possible qu'avec le concours de tout un chacun. Nous avons pu découvrir un certain nombre d'armes qui sont en tirées et même les cas où les Boko Haram se sont frottés à nous, ils ont été repoussés vigoureusement et parfois avec des pertes de leur côté. Nous avons été amenés à restreindre les circulations. C'est les conséquences immédiates de cette situation.
Les investisseurs aussi fuient l'extrême nord du Cameroun. Les ingénieurs chinois qui devaient construire la route ont quitté Mora, à la frontière avec le Nigeria, après l'enlèvement de 10 Chinois par des membres présumés de Boko Haram. En mai dernier, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Tchad ont déclaré la guerre à Boko Haram après le kidnapping de plus de 200 jeunes filles à Chibok, dans l'état de Borno.
La Voix de l'Amérique sur Internet, www.lavoisdelamérique.com.
Les experts de l'ONU et du Centre régional de Nairobi sur les armes légères s'inquiètent de la prolifération alarmante des armes de petit calibre en Afrique. Dans leur rapport 2014, ils disent que ces armes ont exacerbé les conflits dans une vingtaine de pays, dont la République centrafricaine, le Nigeria et le Soudan du Sud. Plus de précisions avec vous, Lionel Gaïman.
Les Nations Unies ont estimé à au moins 875 millions le nombre d'armes légères et de petits calibres en circulation en 2010. Selon le Kenyan Joseph Dan Massano du programme de désarmement de l'ONU, les pays africains ont dépensé en 2013 pas moins de 18 milliards de dollars en raison des conflits. Les armes légères constituent un grand défi pour le continent parce qu'elles sont entre les mains de civils et causent des dégâts, des pertes en vie humaine. Vous avez vu des armes quitter la Libye après la chute de Kadhafi pour l'Afrique subsaharienne. C'est sérieux. Ngalim Eugène, cofondateur du Forum de la jeunesse africaine pour la paix, est d'accord. On les voit même maintenant dans le port de Douala. C'est une sérieuse question sécuritaire pour le Cameroun. Il y a toutes sortes d'armes. Ce sont des armes légères qu'utilisent les gangs. Prenez l'exemple de la République centrafricaine, où la plupart de ces armes se retrouvent entre les mains de gens qui n'étaient pas censés les avoir. L'existence d'accords comme la Convention onusienne de Kinshasa en 2010 sur l'éradication des armes légères n'a pas empêché leur prolifération. Face à de tels échecs, les activistes ont recours à des méthodes très originales. Stella Wade, du programme des Nations Unies contre les armes légères, donne l'exemple des femmes de la région Karamoja, le long des frontières entre l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya et l'Ouganda. Elles sont encouragées à user de leur influence auprès de leurs maris. Plutôt que d'encourager les hommes à aller se battre, elles les exhortent à s'asseoir pour discuter paix et déposer les armes. C'est ainsi que beaucoup d'armes ont été remises au gouvernement et à cause du rôle de ces femmes, la paix prévaut de plus en plus dans cette région. Stella Wade veut aussi que l'on fasse plus pour empêcher des pays producteurs comme la Chine, Israël et la Russie de vendre des armes qui finissent entre les mains de mouvements rebelles.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure de sport et j'accueille Nicolas Pino. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football. Hein. Stéphane Keshi en piste pour rester à la tête des Super Eagles du Nigeria.
La fédération nigériane est prête à entamer des discussions avec son sélectionneur national pour renouveler son contrat. En poste depuis 2011, Keshi est arrivé en fin de contrat après le Mondial brésilien. Et son nom avait été cité depuis pour le poste vacant de sélectionneur de l'Afrique du Sud. Je vous rappelle que Stéphane Keshi, 52 ans, a mené les Super Eagles en 8e de finale du Mondial brésilien. Et surtout, en 2013, un troisième titre en Coupe d'Afrique des Nations, c'était évidemment en Afrique du Sud.
La République démocratique du Congo se retire de la course pour l'organisation de la CAN 2019.
La Fédération congolaise de football a fait cette annonce hier sans donner la raison de ce désistement. Par conséquent, la mission dans ce pays des experts de la Confédération africaine de football, prévue du 16 au 20 juillet, a été annulée. La RDC, qui n'a jamais organisé la CAN, était en concurrence pour cette 32e édition avec l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Zambie.
Et Nicolas, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe du Faso.
Et oui, l'étoile filante de Ouagadougou et le Racing Club de Bobo Dioulasso se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Faso. Mercredi, l'étoile a éliminé le détenteur du trophée, la Sfayenega, 1-0. Dans l'autre demi-finale, le RC Bobo a pris le meilleur sur l'Union sportive de Ouagadougou, 2-0. La finale, Bagassi, ce sera le 5 août prochain à Bobo Dioulasso.
Enfin, en cyclisme, Tour de France.
Eh oui, deux Français, Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault, ont pris place sur le podium virtuel du Tour de France hier. Derrière l'intouchable maillot jaune, l'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur à Otakam de la 18e étape, la dernière de montagne. L'ultime ascension des Pyrénées a laissé intact le suspense pour la fin du Tour. Dans la perspective du contre-la-montre de Périgueux, à distance, Denis Bali qui a porté son avance à 7 minutes 10 secondes sur le deuxième au classement général.
Après le sport, la musique avec Roger Moutou. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Ce matin, je vous propose la chanson Maps, un morceau du groupe américain du pop-rock Maroon 5. Issu de leur 5e album studio, elle est écrite par Adam Levine et Ryan Tedder. Maps garde la 8e position dans le top 10 pop music. I miss the taste of the sweet life.
Alors Roger, cette chanson parle de trouver l'amour, un amour particulier qui a été perdu et qui doit être retrouvé.
Oui, Bagassi, une belle chanson d'amour, hein. Mais Maroon 5 est aussi connu pour ses interventions contre le réchauffement climatique et pour une avancée plus rapide de l'aide à l'environnement.
Maroon 5 Maps, merci Roger.
De rien, Bagassi, salutations à Patine Thierry à Kinshasa.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h, temps universel.
L'Amérique sur 102 FM à Bamako, c'est aussi de la musique et les sujets socio-culturels. Participez dans RM Show spécial Mali du lundi au vendredi en direct à 20h30, temps universel. Allez sur notre groupe Facebook RM Show spécial Mali. Vous aurez l'occasion de décoller dans RM Show spécial Mali chaque matin du mardi au samedi à 7h30, temps universel, et de nouveau à 14h30, temps universel. Hey, Malien ou Ninka Disader.
Voilà, c'est tout donc pour cette dernière édition matinale de la semaine. Merci à Anne Alderson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.